Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez démontré que le journalisme mène à tout à condition de s'en servir plutôt que d'en sortir. Vous évoquez aujourd'hui des rivières dans un livre qui n'est pas un roman fleuve, mais mérite néanmoins des vagues d'applaudissements. Bonjour Philippe Avrour.
Bonjour et merci Jacques Pessis.
Alors ce roman, ça s'appelle « J'irai nager dans plus de rivières » chez Gallimard, on va en parler tout à l'heure parce que c'est un roman confession aussi passionnant qu'émouvant, mais on va revenir sur le fil de votre longue carrière à travers des dates clés de votre vie. Et la première que j'ai trouvée, Philippe Labro, c'est le 13 août 2000, qui est une date importante du côté de Jérusalem, car je crois que ce jour-là, vos parents deviennent des justes.
Ah ben bravo, effectivement. Ben, ils sont devenus officiellement des justes, ils ont été justes un peu plus tôt, dans les années 40, donc, puisque mon père et ma mère, entre 40 et 44, ont accueilli, hébergé, protégé des juifs qui arrivaient de Paris en direction du Pyrénées et de l'Espagne, et donc il était nécessaire qu'ils fassent un arrêt dans le sud-ouest. Montauban, d'ailleurs, il n'y a pas que mes parents qui ont fait ça. Montauban était un endroit très précis, un carrefour, si vous voulez, de ces réfugiés, de ces fuyards plutôt. Et mon père et ma mère ont été particulièrement héroïques, je dois dire, effectivement, puisque je l'ai raconté dans un livre, et c'est comme ça que ce livre ayant été lu par une dame en Israël qui elle-même avait été sauvée par les justes, a donné mon nom à Yad Vashem, enfin bref, la mécanique ne vous intéresse pas. Toujours est-il qu'effectivement, ils ont vécu un moment, et nous avons vécu avec eux, un moment de danger absolu.
Il y a quelqu'un d'autre qui s'est caché à Montauban pendant la guerre, c'est Mona Lisa, la Joconde, qui a été enfermée dans une caisse au musée Ingres de Montauban, à l'abri des Allemands. Et on en a sorti après la guerre.
Vous m'apprenez quelque chose, je ne savais absolument pas ça, Jacques.
Alors, les lettres, finalement, c'est une filiation, Philippe, puisque votre père était un amoureux des lettres. À la fin de chaque déjeuner, il se levait, il lisait du Hugo, du Dumas ou des poèmes.
Il disait aussi beaucoup, il récitait aussi beaucoup du Edmond Rostand. Hein, et il adorait Cyrano de Bergerac. Il nous lisait la tirade du nez, la tirade des oui ou des non. Bref, il était effectivement très lettré. Et nous avions la chance de ne pas avoir la télévision, de n'avoir rien d'autre que la littérature, la mémoire, l'héritage culturel d'un père comme d'une mère, puisque ma mère elle-même était très férue de poésie. Et donc effectivement, à la fin des repas, il se levait, il avait toujours l'habitude de se lever, de tourner autour de la table, sans doute pour essayer de dépenser son énergie, et il nous récitait des textes. Et c'est ainsi que très tôt, je suis entré dans l'amour des livres, quel qu'il soit. Il m'a fait lire beaucoup trop tôt, mais je l'ai relu bien sûr plusieurs fois de suite, Les Misérables de Victor Hugo. J'ai eu Les Misérables entre mes mains à l'âge d'à peu près 7 ou 8 ans.
Et c'est comme ça que vous êtes devenu un conteur, Philippe Labro, puisque de vos petits camarades, vous inventiez des histoires. Il y avait un chien, je crois que ça s'appelait Musette, et qu'à partir de ces histoires…
Ah, vous êtes bien renseigné, hein.
J'ai essayé. Et à partir de ces histoires, vous teniez en haleine vos copains, jour après jour.
Et oui, j'avais sans doute hérité, sans doute, de mon père et de ma mère, puisque, encore une fois, et mon père a écrit 3 livres à compte d'auteur, donc il était lui-même, il était conseiller juridique, certes, mais il avait une veine d'écrivain, et ma mère était poétesse. J'ai hérité, parce que je suis seul des 4 garçons qui a eu ça, un goût, un don, une pulsion même de l'expression en public. J'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de raconter. J'aimais fasciner mon auditoire, qui était composé de 4 garçons, pas plus, mes 3 frères et un copain. Mais déjà, j'avais ce désir de parler, de raconter, non pas de jouer la comédie véritablement, mais d'être sur le devant de la scène.
Et puis, alors, vous aviez un accent du Sud-Ouest qu'il a fallu perdre quand vous êtes arrivé à Paris, au lycée Janson de Sailly, Philippe Labro.
Il m'arrive tout de même, quand je redescends à Montauban pour voir quelques amis, de retrouver très rapidement mon accent, surtout quand je vais à Sapiac pour regarder un match de rugby. Mais effectivement, Jacques, il a fallu s'en débarrasser, parce que quand vous arrivez au lycée Janson de Sailly, dans une cour pleine de Parisiens un peu snobs et très empreints de leur supériorité, non seulement vestimentaire, mais intellectuelle et même sociétale, bourgeoise, haute bourgeoisie, ben, il faut très vite s'adapter. Je ne sais pas en combien de temps je l'ai perdu, mais je l'ai vraiment perdu. Hein. Mais je le retrouve facilement.
Et puis, il s'est produit un événement, c'est que votre mère a lu un jour dans le Figaro qu'il y avait un concours pour un journal des jeunes. Vous êtes inscrit et c'est comme ça que vous êtes entré au Figaro très, très jeune, Philippe Labour.
Non seulement ça. Le patron de l'époque, c'était un homme légendaire. Personne ne sait plus aujourd'hui qui il était. Il s'appelait Pierre Brisson. C'était le très grand patron du Figaro. Oui, vous, bien sûr, vous êtes une mémoire vivante, Jacques. Mais demandez à ceux qui vous écoutent qui est Pierre Brisson. De même, demandez-leur qui est Pierre Lazareff. C'est pas sûr qu'ils savent. Bon, bref, en tous les cas, Pierre Brisson nous a reçus. Nous étions quelques candidats lycéens. Il y avait d'ailleurs parmi les jeunes candidats inconnus comme moi, bien sûr, à l'époque, un garçon qui s'appelait Jean-Louis Servan-Chabert et un autre qui s'appelait Jean-Claude Galignani, qui est devenu depuis un homme d'affaires et qui possède cette merveilleuse librairie à Paris, Galignani. Eh bien, Pierre Brisson, après nous avoir tous écoutés, avoir lu nos papiers, nos actes de candidature, m'a nommé tout simplement directeur. Donc, j'ai commencé ma carrière comme directeur, mon cher. Je ne pouvais plus que redescendre.
Et c'était à l'époque le Salon de l'Enfance qui n'existe plus aujourd'hui, qui était au Grand Palais depuis les années 50. C'était au temps du baby-boom où il fallait distraire les enfants. Et c'était une fête avant Noël comme on ne peut plus en imaginer aujourd'hui.
Ah non, c'est inimaginable, mais c'était extraordinaire. Ils nous ont donné, évidemment, on était supervisés par des aînés, par des vrais journalistes qui avaient 20, 25, 30 ans, mais ils nous ont donné cette joie, ce cadeau de faire, on faisait deux éditions par semaine, de faire du journalisme, d'aller voir des gens, d'interviewer des gens, d'écrire des petits éditos, parfois ridicules, parfois un petit peu présomptueux. Néanmoins, nous sommes entrés, en tout cas moi je suis entré dans la passion du journalisme à cet âge-là. Au point que j'ai évidemment raté la plupart de mes cours pendant les trois semaines pour lesquelles a duré cette aventure et que j'ai redoublé.
Oui, mais résultat, en redoublant, un jour, il y a eu une proposition pour une bourse, et que cette bourse, c'était le point de départ de votre carrière, Philippe Labour.
Oui, la bourse Fulbright, une bourse d'échange franco-américaine, plutôt américano-française. C'est un sénateur américain qui s'appelait Fulbright, qui avait inventé cette idée géniale d'échanger un étudiant français, ou allemand, ou anglais, si vous voulez, contre un étudiant américain. Et donc, j'ai fait acte de candidature, là encore, j'ai rempli des papiers, j'ai expliqué pourquoi je savais qu'il y avait aux États-Unis des écoles de journalisme dans les grandes universités, et comme j'avais déjà la passion du journalisme, j'ai expliqué en une page, en anglais, bien sûr, mon désir d'obtenir cette bourse. Et je l'ai obtenue. Et je suis parti à l'âge de 18 ans pour les États-Unis.
Les États-Unis vous ont toujours attiré, et il y a un comédien que vous avez même imité, Philippe Labour. Écoutez.
It's a very long way from the heart of the Belgian Congo to the stage of the Pantages Theatre,
qui est une de vos idoles.
Oui, entre autres, j'en ai eu plusieurs idoles. Mais Bogart, certes, mais pas seulement Bogart. Hein.
Oui, mais il y a une anecdote extraordinaire sur Bogart, c'est-à-dire qu'il tourne avec John Huston, l'Odyssée de l'African Queen, ils boivent tous les deux du whisky, et ce sont les deux seuls qui ne sont pas malades, parce que tout le monde a bu de l'eau, et l'eau est polluée en Afrique.
Bonne leçon pour aujourd'hui.
Exactement. Et alors, cette université, vous allez vraiment apprendre votre métier. D'ailleurs, je crois que vous avez encore la chevalière de cette université. C'était tout vraiment le point de départ du journalisme pour vous.
Oui, parce qu'il y avait dans cette université, elle s'appelle toujours Washington and Lee, en Virginie. D'ailleurs, en ce moment, il y a une grande querelle sur le mot Lee, parce que Lee, c'est Robert E. Lee, qui a été un des généraux sudistes, et compte tenu de tout le déplacement des statuts, des nominations qu'on enlève et tout, il est possible que ça ne s'appelle plus tout à fait ce nom-là. Toujours est-il qu'à Washington and Lee, il y avait un remarquable département, on appelle un département là-bas, c'est-à-dire une faculté de journalisme, avec deux professeurs remarquables, qui s'appelaient Regal et Davis, c'est encore leur nom dans ma tête, bien sûr, et qui m'ont appris le journalisme. La chance qu'on avait, Jacques, c'est que sur place, on avait là encore notre propre journal, le journal du campus, deux parutions par semaine, là encore, et puis notre propre radio, si bien qu'on faisait des émissions en radio. Et moi, avec mon accent français, j'étais devenu une petite attraction parce qu'on appelait ça « the French hour », l'heure française. Et les gens souriaient un peu en m'écoutant, mais ça m'a permis d'apprendre énormément l'outil, de travailler sur le terrain et pas simplement la théorie, mais le pratique.
Et le pratique, ça a continué. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 22 novembre 1963. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Labour.
Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Philippe Labro. On parlera tout à l'heure de J'irai nager dans plus de rivières chez Gallimard. On parle d'une date importante dans votre vie et dans l'histoire du monde, 22 novembre 63, l'assassinat de Kennedy. Et vous êtes pas loin, Philippe Labro.
Je suis sur le campus de Yale, c'est-à-dire dans l'Est, comme un côte Est. Hein. Il est assassiné à Dallas, au Texas, c'est quand même pas la porte à côté. Mais j'apprends ça à midi, bien sûr, comme tout le monde. Et je quitte l'équipe de tournage de 5 colonnes à la une, avec qui je tournais un petit documentaire sur la vie d'un campus américain, pour prendre en voiture la route pour New York et prendre le premier avion qui m'amène à Dallas le lendemain matin. J'arrive donc le lendemain matin de l'assassinat de Kennedy et je vais vivre pendant 3-4 jours l'enfer extraordinaire à l'intérieur du commissariat de police de Dallas avec 300 journalistes américains. J'étais avec un seul Français de l'AFP, au début en tout cas, puisqu'ensuite ils sont tous arrivés, pour voir un cirque inimaginable, Jacques. C'est-à-dire que les flics étaient là, ils laissaient rentrer un peu près n'importe qui, Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé, descendait de la cellule au premier étage, nous l'attendions au rez-de-chaussée, il passait devant nous, n'importe qui aurait pu le toucher ou lui tirer dessus, ce qui s'est passé d'ailleurs le lendemain. Et c'était un moment de confusion extrême, de tension extraordinaire, parce qu'on sentait bien qu'évidemment nous étions face à une tragédie, parce qu'au moment où nous étions en ce petit commissariat pour essayer de suivre donc, les allées et venues de cet assassin présumé, l'Amérique entière s'interrogeait. Johnson avait été intronisé président dans l'avion même qui quittait Dallas, il a prêté serment sur la Bible devant Jackie Kennedy, effondré bien entendu, et le reste de l'Amérique s'interrogeait pour savoir si ce n'était pas tout ça un complot international qui était derrière cet assassinat.
Vous avez même rencontré Jacques Ruby qui a tué Lee Harvey Oswald.
Bien sûr. Alors, dans cette foule bigarrée et confuse, on se reconnaissait tous. Enfin, les journalistes, ils voient à peu près qui ils sont, ils ont les micros à la main, des caméras. Et il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout, qui n'avait pas du tout le look du journaliste. Il avait un petit feutre sur la tronche. Il ressemblait, vous parliez de Bogart, il ressemblait au second rôle des films de Bogart. Cravate un peu trop lumineuse, la gomina autour des rouflaquettes, vulgaire, mais terriblement à l'aise, connaissant tous les flics, qu'il appelait Jack, et s'adressant à nous posant des questions, distribuant sa carte de visite de sa maison, de sa boîte de nuit, le striptease, où il recevait tous les soirs les flics de Dallas, bien sûr, et il vient vers moi, il entend mon accent, il me dit « Vous êtes français ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Ah, la France, Folie Berger !» C'est à peu près la seule chose qu'il savait de la France. Et il m'a laissé sa carte. On ne s'est rien dit de particulier, mais comme j'ai raconté ça dans France Soir, dont j'étais l'envoyé spécial, quelques longs mois plus tard, lorsque la commission Warren a fait son enquête sur tous les détails de cette affaire, deux envoyés spéciaux du FBI sont venus à Paris uniquement parce qu'ils avaient lu dans France Soir qu'en quelques lignes, je racontais que Jack Ruby m'avait interpellé. Et ils voulaient savoir ce qu'on s'était dit. Rien d'étonnant. Néanmoins, j'étais face au futur assassin d'Oswald.
Alors, France Soir, justement, ça a commencé grâce à un copain qui vous a emmené chez Pierre Lazareff et vous lui avez dit « J'ai envie de votre journal comme d'une femme ». Ce qui l'a surpris, Philippe Labro.
Ben, mon idée à l'époque, j'étais jeune et insolent, je ne suis ni jeune ni insolent aujourd'hui, j'ai un peu appris quand même les choses et l'expérience de la vie, mais mon idée c'était de séduire cet homme qui était le très grand patron, il était le patron de France Soir qui était lu à l'époque par plus de 2 millions de gens par jour, de France Dimanche, à la tête d'un groupe dans lequel il y avait elle, dirigée par sa femme Hélène, et donc mon idée c'était effectivement de renverser la table et d'arriver à atteindre cet homme et ce journal plus rapidement que le reste de ma génération. Alors, il a aimé ça. Visiblement, j'ai dû le séduire, mais il s'est dit, il y a en face de moi une personnalité. Donc, il m'a donné une chance inouïe et il m'a nommé immédiatement grand reporter. Alors, je n'avais pratiquement pas fait de reportage, si un peu pour deux ou trois radios et magazines, mais j'étais encore très jeune dans la profession. Et Pierre m'a donné cette chance. Et ça a été inouï. J'ai fait des reportages pendant une dizaine d'années.
Oui, surtout qu'il y avait 6 éditions par jour, et quelquefois on écrivait 6 papiers par jour qu'on dictait à des sténos et qui paraissaient immédiatement.
Tout à fait.
Imaginez ça aujourd'hui.
Tout à fait. Donc, d'ailleurs, comme j'avais commencé dans la radio, un de vos confrères, Europe 1, pour ne pas les nommer, je savais ce que c'était que parler en direct, construire une phrase en direct. Et donc, effectivement, il m'est arrivé, comme il y avait 6 éditions, de dicter des papiers que je n'avais pas écrits, les dicter comme ça, et les sténo, c'est ça qui était merveilleux à l'époque. Au téléphone, parfois vous corrigez en disant « Non, là, monsieur Labour, on ne peut pas dire ça comme ça. Là, il faut mettre un point. Là, il faut mettre un point virgule. » C'était une époque merveilleuse. Je vous assure que c'était l'âge d'or du journalisme.
Et vous en avez parlé, on doit aussi à Pierre Lazareff avec Pierre Desgros, Pierre Dumayet et Igor Barrère, une émission dont vous connaissez forcément le générique.
Pierre Lazareff, Pierre Desgros, Pierre Dumayet.
Au début à la télévision, c'est 5 colonnes à l'une, vos premiers reportages, Philippe Labro.
Oui, tout à fait, mes premiers reportages télévisés, bien sûr. Des documentaires, des entretiens, toutes sortes de choses qui ont fait que j'ai appris le maniement de la caméra et le montage grâce à 5 colonnes à l'une. C'est ça qui m'a permis ensuite d'entrer dans la mise en scène de cinéma.
Mais en même temps, vous avez été un journaliste généraliste, ce qui n'est plus beaucoup le cas aujourd'hui, puisque dans vos reportages, il y a aussi bien la princesse Margaret que Cassius Clay, champion du monde, que Jacques Brel.
Ben oui, mais c'est ça que j'ai adoré, vous aussi, je crois, Jacques, vous avez aussi eu cela, c'est la capacité, grâce à des patrons généreux et qui aimaient donner leur chance à des jeunes, la capacité d'aller d'un mariage princier à un match de boxe, à un incendie, à un tremblement de terre, à un petit fait divers, à un grand moment de l'histoire européenne, aux visites de Khrouchtchev en France, reçues par Charles de Gaulle, ça vous permet, le généralisme, de faire une sorte de panorama, de parcours très large de l'humanité et de votre époque. Et évidemment, vous apprenez beaucoup. D'ailleurs, je le dis dans mon bouquin, qui est truffé de citations, comme vous le savez, il y a cette phrase de Yourcenar Art que je fais mienne, qui dit « Quoi qu'il arrive, j'apprends, à tous les coups, je gagne ». Ça ne veut pas dire que je gagne, je ne suis pas vainqueur, mais je gagne en expérience et en savoir.
Il y a une interview de vous qui existe dans Tilt Magazine, la première émission animée par Michel Drucker, où vous rencontrez Brel au moment de ses adieux. Brel qui avait commencé, on l'a un peu oublié, à la Rose Noire à Bruxelles. Son cachet était une bière et l'équivalent d'un euro par jour.
Vous vous rendez compte, quel destin, quel artiste. C'est extraordinaire. Moi, ce que je retiens de Brel, moi, j'ai eu la chance, là encore, de voir son dernier concert à l'Olympia, vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas si vous y étiez, Jacques. Il est arrivé, il y a un moment donné où tout le monde était debout et il ne voulait pas qu'il s'arrête. Il avait terminé avec Amsterdam et il était en peignoir, ça veut dire qu'il avait quitté ses vêtements de scène. Et il arrivait quand même en faisant des signes, en disant « Non, non, c'est la dernière fois », les larmes aux yeux, c'était bouleversant. Brel, entre autres choses, en dehors du fait que c'est un grand poète, un grand compositeur, il avait envie d'aller voir. Il y a une expression de Brel que j'ai toujours aimée, il disait « il faut aller voir ». Et il est allé voir, effectivement, puisqu'ensuite il a fait du cinéma, et ensuite il est parti en bateau pour mourir aux Marquises. Enfin, il n'est pas mort aux Marquises, il est mort à Paris, mais pour vivre aux Marquises ces dernières années.
Et vous, vous avez aussi beaucoup vu, parce que votre mémoire est liée à tous ces souvenirs.
Bien sûr, et la mémoire, vous savez, c'est un tamis. Hein, et alors, on trie, et si on retient certaines petites phrases, certains petits moments qui ne sont pas considérables, c'est qu'il doit y avoir une raison derrière. Et la mémoire, c'est un extraordinaire choix que fait votre inconscient et qui fait qu'effectivement, de longues, longues années plus tard, vous pouvez raconter une rencontre dans la forêt du Colorado, un moment dans un studio de cinéma, toutes sortes de choses. Et j'aime ça, j'aime travailler la mémoire, je prends des notes, hein, entendons-nous bien, parce que c'est très facile de reposer sur sa mémoire, mais il faut savoir aussi, et ça je l'ai appris très tôt, prendre des notes. Et mon bureau est constellé de carnets Moleskine sur lesquels j'ai inscrit l'équivalent d'une vie.
Et moi, j'ai des notes sur une autre date dont on va parler dans quelques instants, le 26 novembre 1969. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Labro.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, Les Clés d'une Vie, celle de mon invité Philippe Labro. Ce roman « J'irai nager dans plus de rivières » chez Gallimard, ce sera pour tout à l'heure. Maintenant, on revient à une date importante qui est le 26 novembre 1969. C'est la sortie de « Tout peut arriver ».
Ah oui, bien sûr, mon premier long-métrage avec Jean-Claude Bouillon et avec un inconnu que j'ai découvert et que grâce à ce film, il est devenu ce qu'il est devenu, qui s'appelait Fabrice Lucchini. Jeune garçon de coiffeur, tout à fait étonnant, sachant danser le bougalou, parlant le verlan, déjà à l'âge de 16 ans, très cultivé, citant Nietzsche et Bouddha, et il m'a passionné, fasciné. Je lui dis, ben, tu rentres dans mon film. J'étais en repérage à Angoulême, je reparais les lieux où j'allais tourner mon film, et il est entré dans Tout peut arriver. Oui, c'est un film qui essaie de raconter un peu son époque, au fond. C'est très autobiographique, puisque c'est l'histoire d'un journaliste qui débarque en France après avoir vécu très longtemps à l'étranger et qui veut retrouver son pays et le comprendre. Et ce faisant, il se met à faire du stop à travers la France. Il rencontre des routiers, il rencontre des anciens d'Algérie, il rencontre des gens qui ont quitté leur famille et il rencontre ce petit garçon coiffeur qui deviendra en partie, grâce à ce film, une petite vedette. Mais je n'avais jamais prévu, Jacques, il faut être honnête, qu'il deviendrait ce qu'il est, c'est-à-dire le plus grand professeur de lettres français.
Oui. Et moi, je me souviens de lui à La Nouvelle Ève, qui était le vendredi soir un cabaret où on se retrouvait avec des personnalités. Il était là, il y croyait, et personne n'y croyait, et il s'est battu pour y arriver.
Il s'est battu avec son intelligence, il est très intelligent, lui, qu'il est. Et avec, c'est la force des autodidactes, ils vont plus loin parce qu'ils savent que au départ, ils n'ont pas eu cette éducation.
Alors, tout peut arriver, c'est un principe que vous avez toujours appliqué. Au départ, la réalité et ensuite la fiction. Et en mélangeant les deux, ce que le public n'a pas toujours perçu, Philippe Labro.
Oh, tout peut arriver a été un joli succès critique et un formidable échec commercial, ce qui n'est pas très grave pour un premier film, mais ça m'a valu une leçon. Je me suis dit, c'est très gentil de faire un film autobiographique et un peu narcissique, parce que je parlais quand même beaucoup de moi à travers ce journaliste incarné par Jean-Claude Bouillon. Peut-être qu'il faut aller plus loin et aller chercher le vrai récit. Et c'est comme ça que j'ai adapté avec Jacques Lanzmann, pour mon deuxième long-métrage, un polar américain qui est devenu Sans mobile apparent.
Il y a quelqu'un qui est venu à la projection de ce premier film, Jean-Pierre Melville, et ça a été le début d'une grande amitié.
Oui, il est devenu mon mentor. Jean-Pierre arrive avec son chapeau, son Stetson, ses Ray-Ban sur le visage. Toute la salle est déjà là. C'est une projection privée de presse, plus ou moins, dans une villa à Neuilly. Les gens voient arriver ce géant qui est déjà devenu le grand patron du cinéma français. Et il me regarde et il dit avec sa voix grave « J'aime déjà votre film ». Alors que la projection n'avait pas commencé. On s'est revus, on a beaucoup parlé, j'avais adoré ses films, bien entendu. Il aimait en moi le journalisme, il aimait aussi mon amour cinglé du cinéma américain, c'était sien. Et je crois que ce qui nous rapprochait aussi, c'est qu'il avait fait la guerre, il a fait la Grande Guerre mondiale, Melville, hein, pendant 7 ans. Hein. Il était dans les forces françaises, il s'est battu à Monte Cassino, c'est un héros, hein, Melville. Et moi, j'ai fait la guerre d'Algérie, et j'avais écrit ça d'ailleurs dans mon premier roman, Des feux mal éteints, que tous les soldats à l'époque s'appelaient Max. Et lui aussi, je ne sais pas pourquoi, dans l'armée, on s'appelait aussi Max. Salut Max, comment tu vas Max? Ça va bien Max. Et donc, ça nous a dit, alors, il m'appelait le soir, il était minuit, allô Max? C'est Max. Et il me convoquait à minuit pour aller voir un film dans sa salle de projection privée, Le coup de l'escalier de Robert Wise, avec Sidney Poitier et Robert Ryan, qu'il a dû me montrer une quinzaine de fois parce qu'il voulait m'expliquer chaque plan et comment et pourquoi ce metteur en scène a fait ceci, cela. Et il m'a appris le cinéma.
Et Max, justement, ça a été repéré par Mac Baudard, qui était une productrice qui sortait des parapluies de Cherbourg. Parapluies de Cherbourg, d'ailleurs, qui avait été monté grâce à Francis Lemarque. Quand Michel Legrand n'arrivait plus à trouver l'argent, Francis Lemarque a pris les droits d'édition, les cassés à tirelire, et il ne l'a jamais regretté ensuite. Et Mac Baudard est arrivée, elle a vu votre documentaire sur les Max, et elle a dit, ben, vous pouvez faire du cinéma, Philippe Labro.
Oui, elle m'a convoqué en disant, écoutez, j'ai vu un documentaire, j'avais fait 15 minutes d'un documentaire qui s'appelait « Salut les Max », pour Sainte-Colonne-à-la-Lune, où je m'étais baladé en France pour aller voir des anciens de la guerre d'Algérie. Et elle m'appelle le lendemain en me disant « Je crois que vous êtes fait pour faire un film, vous êtes un jeune cinéaste d'avenir, venez me voir. » J'arrive, elle me dit « Est-ce que vous avez un sujet ?» J'ai dit « Bien entendu, je n'en avais aucun. » Et elle m'a proposé donc de travailler sur un scénario un peu léger que j'avais plus ou moins en tête. Et c'est comme ça qu'on a fait ensemble « Tout peut arriver ». Elle m'a mis vraiment véritablement le pied à l'étrier. Et je lui en suis toujours reconnaissant. Elle a disparu malheureusement. C'était une productrice remarquable. Elle a produit les plus grands de la Nouvelle Vague. René, Daniel Valcroz, Godard et évidemment Jacques Demy. C'est quand même extraordinaire d'avoir fait cette aventure des Parapluies de Cherbourg, des Demoiselles Rochefort et de Peau d'Âne.
Oui, Peau d'Âne qui n'a pas été un grand succès à l'époque et qui est aujourd'hui considéré comme un film culte.
Mais oui, mais vous savez, c'est ça, Jacques, bien souvent. Il y a parler de Melville, L'Armée des Ombres, qui est un chef-d'œuvre absolu. Quand c'est sorti, ça n'a pas eu de succès. C'était juste après mai 68. Les 68 tard considéraient que c'était un film gaulliste. Par conséquent, un film à rejeter, puisqu'à l'époque de Gaulle, c'était le diable. Donc, le temps fait son œuvre. La postérité, ça existe. Et au bout d'un moment, les grands films, les vrais films cultes, deviennent universels.
Et puis, il y a quand même un film qui a battu des records de recettes en son temps, c'est L'Héritier avec Jean-Paul Belmondo, Philippe Labrou.
Alors oui, ça c'est une de mes fiertés, effectivement, de cinéaste. C'est mon troisième long métrage, après Sans mobile apparent avec Trintignant, qui a très bien marché, qui a eu beaucoup de succès. J'ai écrit un scénario original avec Jacques Lanzmann. Je cite Lanzmann, Jacques, parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Jacques Lanzmann était un parolier, un dialoguiste, un scénariste de très grand talent. Et il m'a énormément aidé. On a écrit ensemble le scénario original de L'Héritier. Je l'ai proposé, bien sûr, à Jacques-Éric Strauss, qui était le producteur de mon film précédent. Et il m'a dit, il n'y a évidemment qu'un seul interprète possible, c'est Belmondo. Mais avoir Belmondo à l'époque, c'était très difficile. Il était la star la plus recherchée avec Delon du cinéma français. J'en étais qu'à mon troisième long métrage. Mais la lecture du scénario l'a convaincu et il a donné son accord. On a fait L'Héritier, qui, effectivement, vous avez raison, a été un immense succès.
Et Jacques Lanzmann, vous avez raison de le citer, il a quand même écrit les premières chansons de Jacques Dutronc. C'était un pari parce que c'était au départ un gag pour montrer qu'on pouvait faire des chansons avec n'importe quoi. Il a créé le magazine Lui, premier
oui,
magazine pour les hommes.
Tout à fait.
Et
oui,
il a écrit des romans de voyages lointains qui ont été des succès.
Une quarantaine de romans. Mais effectivement, Jacques, grand scénariste et grand parolier, parce que pour Dutronc, il a écrit quand même les grands tubes de Dutronc. Hein. J'aime les filles de chez Castel. Ben, c'est évidemment Dutronc, mais c'est écrit par Lanzmann. Il faut toujours quand même revenir à ça. Qui a écrit ?
Eh bien, justement, qui a écrit cette chanson qu'on écoute, Philippe Labrou ?
Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares.
Jésus-Christ est un hippie et l'auteur, c'est vous.
Ben oui, bien sûr. Je reviens des États-Unis où je suis en reportage. J'ai vu sur le campus de Berkeley les jeunes gens avec les cheveux longs, des fleurs à la main, les hippies de la grande époque. Et je me suis dit, tiens, ils ont une allure christique. Et donc, dans l'avion, j'ai écrit comme ça un poème qui s'appelait « Jésus-Christ est un hippie ». J'arrive à Paris, je vois Eddie Vartan qui venait de faire la musique du film « Tout peut arriver », qui m'avait présenté une fois à Johnny, avec qui j'avais commencé à discuter, à dialoguer. Et je dis à Eddie, voilà, tiens, personne ne chantera jamais cette chanson. Mais ici, si, Johnny va la chanter, je te fais la musique. On a fait la chanson et ça a été un invraisemblable scandale. Mais aussi un très gros tube.
Voilà. Et Johnny, vous avez écrit une quarantaine de chansons pour lui et vous avez vécu des nuits folles, alcoolisées parfois.
Peut-être un petit peu, oui. Mais enfin, on a aussi... Oui, d'accord. Bah oui, on était jeunes. Et puis, on travaillait beaucoup. Donc, quand vous travaillez beaucoup, il faut peut-être alimenter la machine, hein, franchement.
Voilà.
Mais surtout, j'ai le souvenir d'un homme avec qui j'ai eu une amitié extraordinaire. Il n'y a jamais eu un conflit, jamais un problème. On s'est toujours très bien entendu, même si je ne l'ai pas tout le temps vu, puisqu'il vivait sa vie de star. Moi, j'ai vécu ma propre vie. Mais je lui ai écrit beaucoup, beaucoup de textes et il avait une faculté de comprendre et de savoir exactement le texte qu'il lui fallait. Et j'ai trouvé que cet homme, en dehors de toutes ses autres qualités, il en avait beaucoup, avait un sens inouï de ce que le public aimait chez lui. Un peu comme Edith Piaf.
Oui. Et il avait beaucoup d'humour.
Vous savez ça très bien. Pardon ?
Il avait beaucoup d'humour aussi, Johnny. On en parlait peu, mais il faisait beaucoup de blagues à ses copains. J'ai été témoin de certaines scènes.
Oui, il faisait beaucoup de ça, beaucoup de blagues. Rejoignant cela, Belmondo, quand j'ai tourné L'Héritier avec Belmondo, il n'arrêtait pas de faire des blagues. Un soir, avec son copain Charlie Couvet-Serrière, le maquilleur, on tournait à Rome, dans un grand hôtel. Ils avaient mis devant ma chambre, devant la porte d'entrée de ma chambre, les pots énormes qu'il y a dans ces hôtels, avec des paniers invraisemblables, si bien que le matin, en sortant, je ne pouvais pas sortir, tout simplement. Il fallait que je sorte par la fenêtre.
Une autre activité qu'on a un peu oubliée, c'est le journal d'Antenne 2, car vous l'avez présenté pendant plus de 2 ans en alternance, Philippe Labro. Ça aussi, c'est notre expérience.
Oui, c'est Pierre Desgroupes, que j'avais donc connu pendant 5 colonnes à la Une, qui un jour m'appelait en disant, voilà, je viens d'être nommé à la tête d'Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, France 2 aujourd'hui, et je suis en train de renouveler un petit peu les équipes, je te propose de présenter le journal de midi. Le soir, on présentera avec une jeune femme pas très connue encore, qui s'appelle Christine O'Krent. Donc tu viens avec Christine, elle fait le soir, tu fais le matin, mais on fera en alternance. Le matin, le midi, c'est-à-dire que je faisais une semaine, et l'autre semaine, c'est Bernard Langlois qui présentait. Et j'ai présenté ce journal, j'ai adoré le faire, c'était passionnant. À l'époque, vous savez, on n'est pas de prompteur, on n'est pas d'oreillette, à peine pouvait-on se maquiller dans un coin de bureau, tout ça, dans un tout petit vestibule au Cognac Jay. On était un peu des pionniers, mais c'était très excitant, et ça m'a aussi beaucoup appris, beaucoup.
Oui, car vous avez appris aussi à interviewer des stars. Je me souviens d'une interview de John Travolta, tout jeune, timide. Et ça, ça a été aussi un grand moment de télévision, Philippe Labro.
Tout à fait, oui. Et puis, je crois même que j'ai commencé mon premier invité, je crois, c'était Coluche.
Oui.
Chaque jour, c'était un journal merveilleux en tête de midi. On avait 1 heure devant nous. Alors, il fallait une demi-heure à peu près, ou un peu moins, d'infos, d'actualité. Et ensuite, il y avait l'invité. Et l'invité, on a fait défiler tout le monde. Je me souviens aussi avoir invité toute l'équipe de France de rugby avec Mias, le fameux Mias, et ils sont venus chanter en direct une chanson sur les Pyrénées.
Et vous preniez le temps d'écouter Philippe Labro.
Ben, il faut savoir écouter, il faut savoir se taire aussi parfois. C'est la vertu d'un intervieweur, c'est de se dire que ce n'est pas vous la star, c'est celui qui est en face de vous. Et donc, il faut écouter ce qu'il dit, il faut lui laisser parfois un peu de silence pour ne pas relancer, pour l'obliger à aller un petit peu plus loin. C'est ce que j'ai fait beaucoup plus tard dans une émission qui s'appelait Ombre et Lumière. C'est-à-dire que vous laissez faire, et donc il est bien obligé d'aller un peu plus loin dans sa déclaration ou sa confession. Et l'écoute, c'est comme le regard, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que nous faisons, journalistes ou même écrivains? Nous regardons et nous écoutons les autres.
Eh bien, on va continuer à vous écouter dans quelques instants à travers une autre date, le 1er octobre 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Labro.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Philippe Labro. Donc, on en parle depuis le début. Il y a « J'irai nager dans plus de rivières » chez Gallimard, votre nouveau livre qui est sorti le 1er octobre 2020. Alors, c'est un livre confession plutôt qu'un roman, Philippe Labro.
Sauf si on considère qu'une vie est un roman.
Oui.
Donc c'est le roman de ma vie. Mes rencontres, des portraits, des moments, effectivement des erreurs que je confesse, des allées et venues, mais aussi le regard sur la nature, les voyages, les rivières du Colorado, et même celles aussi du Tarn-et-Garonne, et puis des réflexions. J'ai construit le bouquin à partir de citations, de gens connus ou pas connus, de Churchill à Coluche, en passant par Zidane ou Henri Michaud ou Aldous Huxley. Et ces citations sont comme les petits cailloux sur le chemin qui m'amènent à la conclusion du livre, qui au fond est « La vie est belle et l'amour existe ». C'est un livre qui se veut très positif.
Oui, et surtout dans ce livre, vous le publiez aujourd'hui parce que vous estimez, Philippe Labro, qu'il faut se concentrer sur les choses essentielles.
Ben oui, et c'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui l'est pas? Quand vous êtes passé, ce qui a été mon cas, et c'est le cas de la plupart des êtres humains, à travers une ou deux expériences de santé très graves, moi j'ai quand même vécu bien avant ceux qui en ce moment sont dans le coronavirus et sont en réanimation, j'ai vécu la réanimation à Cochin pour un problème pulmonaire gravissime. Quand on est passé à travers un certain nombre d'expériences comme ça, d'échecs, d'erreurs, d'épreuves et d'obstacles, on essaie d'en tirer des conclusions. et on essaie de savoir ce qui compte et ce qui ne compte pas. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est l'amour des autres, c'est le respect des autres, c'est l'écoute des autres et c'est la curiosité du monde, c'est-à-dire aller voir, comme disait Brel.
Et puis, quelque chose de très important pour vous, ce sont les mots. Vous allez chercher les mots, et ça, c'est un travail immense et qui demande beaucoup plus de temps qu'on l'imagine chez un romancier, Philippe Labrou.
Oui, il faut chercher les mots les plus évidents, les plus clairs, les plus limpides. J'aime, comme la rivière, que ça soit clair et limpide. Mais effectivement, la langue française est très riche, très importante, merveilleuse. Et le mot prononcé par quelqu'un, il faut savoir l'entendre et le comprendre. Quand je débute tout le bouquin sur l'anecdote d'une petite fille, ma fille, qui sur la plage, à l'âge de 6 ans, vient me dire « protège-moi ». Et que dans mon petit narcissisme de père, je crois qu'elle veut dire « aime-moi, embrasse-moi ». En fait, j'aurais dû comprendre si elle me dit « protège-moi », c'est qu'elle se sent en danger parce que la fièvre est en train de monter en elle. Et effectivement, 2 heures plus tard, elle a de la fièvre. Pas très grave, mais toujours est-il que là, je n'avais pas peser la valeur et le sens du mot « protège-moi », « protéger ». Et tous les mots ont un poids, et il faut savoir s'en servir ou le comprendre.
Et ce livre, « J'irai nager dans plus de rivières », le titre n'a pas été choisi au hasard. Au départ, c'est un poème de Borges.
Exactement, c'est un poème signé par une Américaine, mais dont on sait aujourd'hui, une vieille dame américaine pas connue, que c'est inspiré d'un poème de Borges, bien sûr, José Luis Borges, et qui dit quoi? Il dit « Si je devais revivre ma vie, j'irais commettre encore plus d'erreurs, j'irais danser encore plus de danses, j'irais grimper plus de montagnes, j'irais cueillir plus de fraises, j'irais nager dans plus de rivières. » J'ai trouvé ça une phrase merveilleuse, et qui dit les choses, qui dit « oui, rien n'est fini, tout recommence ».
Et vous avez failli donner un autre titre à ce livre, c'était « Ce qu'il m'a fallu de temps pour tout comprendre ».
Oui, c'est un poème d'Aragon extraordinaire qui dit « Ce qu'il m'a fallu tout comprendre, comment ce que j'ai compris, le dire de mon mieux ». Et puis je me suis dit que c'était prétentieux, parce que ça voulait dire que j'ai tout compris. Or, je n'ai pas compris, pas plus que vous n'avez compris, un certain nombre de choses qui sont les mystères de la vie, les mystères de la nature, les mystères de la création, de l'existence, les mystères des êtres humains. Et donc, je pensais que ce titre-là était trop… Et puis, pour vous dire la vérité, je trouvais que ça sonnait trop comme du dorme-son. Et je ne voulais pas qu'on croie, même toute l'admiration que j'ai pour Jeando, que j'essayais de faire du Jeando. J'ai voulu trouver quelque chose de plus limpide, qui coulait bien, quoi. La rivière.
Et
le mouvement.
Le mouvement.
La vie est un mouvement.
Oui, un mouvement où vous avez l'intelligence de reconnaître vos erreurs. Il y a une lettre que vous écrivez à Jean-Louis Trintignant qui est caractéristique et qui symbolise le personnage que vous avez été, Philippe Labrou.
Oui, j'étais, comme je vous l'ai dit à propos d'autre chose, très insolent et très prétentieux et un peu arrogant. Melville était mon maître en cinéma, mais il avait 2 ou 3 idées un petit peu folles qui relevaient à mon avis de son psychisme très compliqué, parce que c'était un homme très compliqué, très complexe, et il m'avait dit sur un plateau, il faut se faire détester, ne soyez pas aimable avec vos comédiens parce que comme ça vous obtiendrez le meilleur d'eux. Ben, peut-être, sauf que moi je l'ai écouté, d'abord c'est pas sûr, il vaut mieux être au contraire très aimable et les aimer les comédiens. Mais là, avec Trintignant sur son mobile, mon deuxième long métrage, j'ai joué au patron, j'ai pas été agréable, j'ai même été vraiment parfois rude, je l'ai rudoyé. Ça nous a obtenu un formidable personnage, parce que l'inspecteur Carella qu'incarne Trintignant en son mobile, c'est un très beau rôle. Mais je me suis dit, en sortant de là, quand je me suis retrouvé dans la table de montage et que j'ai vu le travail qu'avait fait cet homme, mais quel con tu as été de ne pas être plus proche de ce garçon, de lui parler, d'être plus agréable, de passer plus de temps avec lui après le tournage et tout. Et donc j'en ai ressenti une sorte de culpabilité que j'ai portée très longtemps en moi, au point qu'effectivement, je lui ai écrit dans ce livre une lettre d'explication et en lui demandant pardon. Alors, je ne pense pas qu'il me pardonnera, mais ce n'est pas grave. Bon, j'ai voulu écrire la lettre.
Je suis sûr qu'il vous pardonnera, c'est un être très gentil.
C'est un homme merveilleux, c'est un grand bonhomme.
on est bien d'accord. À une époque, il a lancé une écurie de courses de voitures, comme son oncle Maurice Trintignant, et il a très vite arrêté. Alors, il y a aussi dans ce livre une sorte d'inventaire à l'après-Vert. Vous évoquez ce que vous emporterez, Philippe Labrou.
Voilà, il se trouve que j'étais très copain avec Bernard Loiseau, le grand chef, et nous étions avec ma famille en week-end chez lui, en Bourgogne, à Saulieu. On s'en va le dimanche matin, on fait la valise, et je descends au comptoir pour payer la note. Et l'hôtesse me dit, non, il n'y a pas de note, monsieur, c'est monsieur Loiseau. Je dis, écoutez, ce n'est pas possible, ça, non, je ne peux pas accepter. Faites-le venir. Donc Bernard descend, vous vous souvenez tous de Loiseau, avec cette tronche extraordinaire, cette allure, quand il disait, il faut avoir la niaque, au taquet, il n'arrêtait pas d'être au taquet. Et je lui dis, écoute Bernard, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible, ça m'embarrasse. Et il me regarde et il me dit, Philippe, on n'emportera rien. 2 ans plus tard, il se suicide d'un coup de fusil dans la mâchoire. Et moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, peut-être qu'il n'a rien emporté, mais moi, qu'est-ce que j'emporterai? Ben, j'emporterai tout. Et effectivement, dans le livre, il y a 7 chapitres qui sont tout ce que je pourrais emporter, aussi bien des souvenirs, des films que j'aimais, des événements capitaux et très importants, Notre-Dame qui brûle, les tours de Manhattan, mais aussi la naissance de mon petit garçon, mes amours avec Françoise, mes amitiés avec tel ou tel. Et j'ai mis tout ça comme une espèce de, oui, vous avez raison, d'inventaire à l'après-Vert, où il y a à la fois l'actualité, les références cinématographiques, la chanson, bien sûr. D'ailleurs, il y a une playlist dans le film, dans le livre, une playlist. Et j'ai mis effectivement tout ce qu'on peut emporter, c'est-à-dire un bouquet d'expériences, de vie, de sentiments, d'images, d'émotions.
Et tout ça écrit à la main, parfois à la machine, mais surtout pas à l'ordinateur, Philippe Labrou.
Non. L'ordinateur, on peut s'en servir, je sais un peu m'en servir, ce n'est pas la question. Et quand je fais du journalisme un peu rapide, je peux m'en servir pour faire des lettres et tout. Mais lorsque j'écris ce que je crois être un semblant de littérature, dans ce quoi j'essaie de mettre vraiment mon intime et ce que je crois être de plus fort chez moi, là, oui, je prends le stylo, j'adore ça, ou un crayon sur du papier. Je suis très fétichiste, j'aime les objets de l'écriture. J'ai eu le souvenir, c'est peut-être ça qui m'a influencé, de Simenon devant son bureau avec 50aine de pots dans lesquels il y avait à la fois des crayons et ses pipes. Alors là, je ne fume pas la pipe, mais les crayons, ça m'a frappé. Et je suis devenu d'ailleurs un adepte du crayon dans mon bureau à Paris. Ça, il y a 100aine de crayons. Oui, j'aime bien travailler à la main parce qu'au fond, je me dis, comme le peintre avec son pinceau, tout ça part de là, de la tête, de votre âme, de votre imaginaire, et ça descend par le bras vers la feuille blanche.
Et la machine à écrire, je crois que vous en avez une très ancienne dans votre bureau. Et c'est un point commun avec Woody Allen, qui depuis l'âge de 18 ans écrit ses scénarios sur la même machine à écrire.
Oui, mais on est tous des fétichistes. On aime bien quand un objet vous a été utile à vos débuts et qu'en plus il a une valeur presque d'héritage, parce qu'une machine à écrire aujourd'hui, c'est devenu presque un objet d'art. Je comprends parfaitement que Woody Allen continue de taper à la machine, même si pas. Par ailleurs, il doit avoir un ordinateur, comme tout le monde, ce n'est pas la question. Mais oui, bien sûr. Et le stylo, l'encre, le papier, c'est beau.
Alors, vous parliez chanson. Il y a une chanson qui est très ancienne et que vous évoquez dans ce livre, Philippe Labrou. C'est une chanson importante.
Oui, ben oui. Mais il n'y a rien de plus beau que les vieilles chansons. D'abord, c'est l'enfance, c'est les souvenirs. Et puis, il y a dans ces paroles assez simples une vraie philosophie. Quand elle dit « Je voudrais que la rose fût encore au rosier », ça m'a fasciné, ça. Ça veut dire qu'elle voudrait que le temps s'arrête. Elle voudrait même qu'on revienne un petit peu en arrière. Et c'est pour ça que cette chanson m'a aussi beaucoup séduit. Et puis, elle était chantée par les Canadiens il y a très très longtemps, lorsqu'il débutait la vie de cet extraordinaire, merveilleux pays. Et c'était une chanson qui, au fond, était un hymne d'amour, de beauté et d'une certaine philosophie, une certaine sagesse. Souvenez-vous de ce mot. Je voudrais que la rose fût encore au rosier.
Et vous dites aussi, Philippe Labrou, que la seule vraie tragédie de la vie, c'est l'écoulement du temps.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la célèbre et formidable philosophe Simone Veil, pas Simone Veil, celle qu'on a aimée aussi, la grande femme politique, et plus que politique, une héroïne française. Mais il y a aussi cette Simone Veil, que Camus d'ailleurs adorait et qu'il allait voir de temps en temps, qui a écrit cette phrase. En effet, ça fait partie des citations importantes de mon bouquin. La seule vraie tragédie, c'est le temps. C'est la seule chose qu'aucun d'entre nous ne peut contrôler. Et le passage du temps, l'écoulement du temps, ça peut être effectivement passionnant et merveilleux à vivre, il n'empêche que c'est tragique.
En tout cas, vous évoquez aussi vos vocations ratées, comédien, vous avez joué deux fois, et coureur des bois, Philippe Labrou.
Oui, on m'a souvent demandé, mais qu'est-ce que vous auriez aimé être d'autre, et dans une autre vie, dans un autre siècle, coureur des bois, d'abord, quelle belle expression. C'était les gens qui, lorsque l'Amérique n'était qu'un continent totalement sauvage, partaient à la conquête de l'Ouest, à la conquête de la nature, et couraient dans les bois, soit pour aller chercher des peaux de bêtes sauvages, soit pour simplement un peu défricher des routes afin que peu à peu les pionniers s'y installent. Et oui, c'est un mot comme ça, coureur de bois. Il y a le bois d'abord, et j'adore les arbres et la forêt, et puis courir, c'est-à-dire le mouvement là encore. On est dans la notion du mouvement. Et de l'aventure et de l'action. Car je considère que l'action et la réflexion sont complètement liées et que l'un et l'autre ont besoin de l'une et de l'autre.
Et c'est pour ça que vous avez écouté le conseil de Romain Gary qui vous a dit « écris », Philippe Labrou.
Romain Gary, ah, vous avez bien lu mon livre, hein. Romain Gary était un des hommes que j'admirais beaucoup, je le voyais assez souvent. Et un jour, il m'a dit « écoute, ce qu'il faut, c'est que tu fasses, même si tu n'as pas de sujet, il faut que tu fasses des listes de titres. Fais des listes de titres. Et puis, n'attends pas d'avoir un sujet. Écris. C'était un ordre. Ça voulait dire, allez, tu rentres chez toi, ça suffit, on a assez bu, fumé le cigare, on a assez discuté de la vie, de l'amour et de la mort. Maintenant, tu rentres chez toi et tu écris. Voilà, c'était un acte à accomplir. Et Gary était un grand mentor et un grand conseiller.
Et vous allez continuer à écrire. Vous allez continuer.
Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Tout n'est que recommencement, mon cher. Hein.
Et vous n'avez pas envie d'arrêter.
Ah ben, je ne sais pas ce que ça veut dire, s'arrêter. Non, il n'y a pas question. Il y a un mot que j'ai rayé définitivement de mon vocabulaire et de ma vie, c'est le mot retraite.
Eh oui, et ça vous va très bien.
Merci beaucoup. Vous aussi, Jacques.
On continue, et en tout cas, je conseille à celles et ceux qui nous écoutent de lire « J'irai nager dans plus de rivières » chez Gallimard, car vous découvrirez un Philippe Labrou très différent de celui que vous connaissez peut-être jusqu'à aujourd'hui.
Merci infiniment.
Merci à vous d'avoir participé aux Clés d'une vie, et rendez-vous pour le prochain livre, bien entendu.
Bien entendu, merci Jacques Pessis, et bravo pour cette émission, parce que vous nous donnez le temps de nous exprimer. Et ça vaut de l'or.
Je vais rougir. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt et restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.